On commente souvent les béatitudes, mais en fait, curieusement, on commente assez peu les promesses associées à chaque cas. On sait en effet que sont heureux ceux qui procurent la paix, ceux qui sont miséricordieux, ceux qui sont doués et humbles, ceux qui sont pauvres en esprit, etc. On sait aussi que les récompenses sont à peu près en désordre d'être appelé fils de Dieu, d'hériter la terre, d'être aimé et d'être consolé. Mais en fait, on ne sait pas très bien ce qui va avec quoi. Et personnellement, j'ai toujours eu du mal à savoir, par exemple, de qui est-il dit qu'ils seront appelés les fils de Dieu ? Fils de Dieu, ça c'est une récompense la plus forte, je dirais la plus grande. Et ça me plaît bien parce que, en effet, fils de Dieu, c'est d'abord un des titres du Christ, et fils de Dieu, cela veut dire celui qui sera vraiment le représentant de Dieu. Le fils de Dieu, c'est celui qui est appelé pratiquement même à lui succéder. Le fils de Dieu, c'est le serviteur de Dieu sur terre. Le fils de Dieu, c'est celui dont on peut dire que toute sa vie est issue de Dieu, qu'elle vient de Dieu, qu'elle vient tout entière de Dieu. Et c'est de dire également que ce qu'il est, ce qu'il fait, tout cela est né de la présence de Dieu. Donc vous voyez que ceux qui sont appelés fils de Dieu, ce sont ceux qui sont les plus proches de Dieu, pratiquement les égaux de Dieu. Alors ceux qui sont appelés fils de Dieu dans les béatitudes, curieusement, ce ne sont pas ceux qui sont pleins d'amour et de miséricorde, comme j'aurais pu le penser, mais ce sont ceux dont il est dit qu'ils sont les artisans de paix. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et en lisant ça, j'ai été assez étonné, je dois vous le dire, parce que depuis des années et des années que je suis pasteur, j'enseigne que le cœur même de l'enseignement biblique, que la nature même de Dieu, c'est l'amour, c'est la miséricorde. On dit Dieu est amour, et que l'essentiel, c'est d'aimer comme Dieu nous aime. On dit que d'être digne de Dieu, c'est d'aimer, la plus grande chose à donner, c'est l'amour. Tout le message chrétien est centré sur l'amour. Et voilà que dans les béatitudes, ce n'est pas celui qui est plein d'amour qui est appelé fils de Dieu, c'est celui qui procure la paix. Celui qui est plein d'amour, puisque en hébreu, chesed, c'est la grâce, c'est l'amour, c'est la miséricorde, ou d'autres mots, enfin en tout cas c'est la miséricorde et l'amour, c'est le même mot dans l'Ancien Testament. Eh bien, celui qui est plein d'amour, on dit juste qu'il sera aimé. Heureux les miséricordieux, car il leur sera fait miséricorde. Ce qui peut être traduit en français courant par « heureux ceux qui sont pleins d'amour, car ils seront aimés ». Mais ce ne sont pas ceux qui sont pleins d'amour et de miséricorde qui sont appelés fils de Dieu. Alors pourquoi ce décalage ? Eh bien, je me suis dit que peut-être cette méfiance des béatitudes à l'égard de l'amour n'était pas infondée. Parce que je dois dire que ce message d'amour, ce commandement d'amour, finalement, il est assez problématique. Il est problématique d'abord parce qu'il y a quelque chose de brouillé dedans. En effet, quand on parle d'amour, de quoi parle-t-on ? De quel amour ? De l'amour entre Roméo et Juliette ? De l'amour passionné des adolescents qui s'aiment et qui gravent des cœurs sur les corses des arbres ? Ou est-ce que c'est de l'amour qui est simplement de la sympathie, de l'attention ? Vous savez qu'en grec, il y a plusieurs mots pour dire l'amour. Il y a l'éros, qui est le désir, l'agapé, et qui est l'amour désintéressé, et philia, qui est l'amour fraternel. En français, on n'a qu'un mot, et donc on mélange tout. Ce qui fait que la plupart de nos paroissiens ne comprennent plus rien. On dit que la Bible nous invite à aimer nos ennemis, et on dit, mais moi, je ne peux pas me forcer à aimer quelqu'un qui m'est antipathique. Eh bien, oui, donc on ne comprend pas. Et de même, dans les mariages, on nous rabâche sans arrêt le grand chapitre sur l'amour qui est 1 Corinthiens 13 de Paul. Vous savez, si je n'ai pas l'amour, même si je donnais ma vie, cela ne sert à rien. L'amour est éternel, l'amour est puissant, l'amour ceci, cela, etc. Et à chaque fois, je suis un peu gêné par le décalage. Parce que les mariés choisissent cela en se disant « c'est beau, ça parle d'amour, et nous on s'aime, et donc on se marie ». sans se rendre compte que l'amour dont parle Paul n'est pas du tout l'amour qui les a fait se rencontrer. Parce qu'en effet, l'amour qui est éternel dans 1 Corinthiens 13, ce n'est pas l'amour des gens qui s'aiment d'une façon affective et passionnelle. On dit en effet d'ailleurs que l'amour entre un homme et une femme dure au maximum 4 ans. C'est comme ça, c'est physiologique. Et j'espère bien que nous pouvons construire nos couples sur autre chose que sur ce sentiment sans doute agréable et qui permet de se rencontrer, mais qu'il faut certainement apprendre à dépasser et à reconstruire par-dessus une autre forme d'amour. D'ailleurs, l'amour dont parle Paul, ce n'est pas l'amour uniquement entre les époux, puisque c'est ce même amour qu'on doit avoir pour tout le monde. Alors à ce moment-là, ça commence à faire beaucoup de monde hein, dans le couple pour lequel les gens veulent absolument entendre 1 Corinthiens 13. Donc vous voyez que l'amour dont parle Paul n'est pas l'amour des mariés, et c'est l'amour que chaque chrétien doit avoir pour tout le monde. Ce qui fait que finalement, on ne sait plus très bien ce que veut dire aimer son prochain. Et puis en plus, qui doit-on aimer? Alors, est-ce que je dois aimer tout le monde? Mais si je dois aimer tout le monde, je n'aime plus personne, parce que je ne peux pas aimer tout le monde. Aimer le Chinois que je ne connais pas, aimer quelqu'un que je n'ai jamais vu. Et finalement, alors du coup, bien souvent, le message chrétien s'est transféré dans une sorte de préoccupation globale de la pauvreté dans le monde. Et l'amour du prochain, c'est de faire un chèque de 50 euros pour Médecins sans frontières ou autre chose. Certains se moquant, disant que les chrétiens d'aujourd'hui ont remplacé l'amour du prochain par l'amour du lointain. Parce qu'il est plus facile de faire un don à une association anonyme que d'aimer son beau-frère, sa belle-sœur, ses enfants, son mari ou son voisin de palier. Et tout ça pour dire que finalement, non seulement on ne sait plus ce que veut dire aimer, on ne sait pas non plus qui nous devons aimer, et ce message d'amour que nous répétons sans arrêt, nous sommes dans l'incapacité de l'appliquer, parce que nous ne savons pas du tout en quoi ça nous engage, puisqu'on n'y comprend rien. Et puis d'autre part, plus gravement encore, parce que encore ces obstacles que je viens d'évoquer, on peut les dépasser. Si vous assistez aux bonnes prédications de l'étoile, on vous aura expliqué plusieurs fois qui est ce prochain que je dois aimer et ce que veut dire qu'aimer son prochain. Donc ça, les bons théologiens, les bons chrétiens arrivent à dépasser cet obstacle. Mais il y en a un plus grave concernant ce commandement d'amour. C'est que l'amour, je ne suis pas sûr qu'il soit absolument dénué de risques. Et qu'on dit souvent, aimer, et puis après, le reste n'a pas d'importance. Si vous aimez, forcément, vous ferez le bien. Je l'ai moi-même prêché avec cette célèbre phrase de saint Augustin, Diligé et quod vis fac, aime et fais ce que tu veux. Et c'est beau. Cela veut dire que tu n'as pas à te demander ce que tu dois faire ou ne pas faire. La religion n'est pas une question de morale, simplement d'amour. Et donc, à partir du moment où tu aimes, fais ce que tu veux, parce que si tu aimes, tu ne pourras faire que le bien. Ça, c'est beau, mais pourtant, je le sais même si je l'ai prêché, il y a toujours eu au fond de moi un petit quelque chose qui me gênait. Et finalement, j'en suis arrivé, je dirais, à la liberté intérieure qui me permet de vous dire ce qui me gêne là-dedans. C'est que l'amour peut être bon, mais l'amour peut aussi être mauvais. Et s'il y a de bonnes façons d'aimer, il y a peut-être aussi de mauvaises façons d'aimer. Et je ne suis pas sûr que le fait d'aimer nous mette à l'abri de quelconque erreur que l'on puisse faire vis-à-vis de ceux que l'on aime ou que l'on prétend aimer. Parce qu'en effet, on peut aimer, on peut vouloir le bien de l'autre, mais dans le fond, on peut se tromper et on peut lui faire du mal. Et puis, il peut y avoir aussi des amours mauvais, des amours néfastes, des amours pervers même. Il y a des amours qui font du bien, mais il y a aussi des amours qui enferment. Il y a des amours qui tuent. Il y a des amours qui étouffent. Et donc, je ne suis pas certain que le fait d'aimer soit une sorte de sauf-conduit pour cesser de se poser la moindre question. Il y a quelqu'un qui a dit, et je n'arrive pas à savoir qui, certains prétendent que c'est Bernard Shaw, « Délivre-moi de mes amis mes ennemis, je m'en charge. » Et il y a là évidemment quelque chose de très vrai. Parce que les ennemis, ils nous font du mal. Mais dans le fond, nous avons une certaine liberté vis-à-vis de ces ennemis. C'est-à-dire que nous pouvons agir avec objectivité. Mais par rapport à ceux qui nous aiment, la chose devient beaucoup plus compliquée. Et par rapport à ceux qui nous aiment, il y a des choses qui sont difficiles parce qu'il y a des sortes de liens qui font qu'on n'a plus la liberté d'agir ou de réagir. Et je crois que bien souvent, ceux qui nous aiment peuvent nous faire beaucoup plus de mal que ceux qui nous haïssent. Et il y a là un danger terrible parce que ceux qui nous aiment pénètrent au plus profond de nous-mêmes et peuvent par là même instiller une sorte de germe, de destruction ou de mort qui peut être terrible. Je vous l'ai dit, il y a des amours qui veulent posséder. Et ce qui est dangereux dans l'amour, c'est que l'amour tisse des liens avec quelqu'un et que ces liens peuvent être parfois des liens pervers dont il devient extrêmement difficile de se dégager. L'exemple type, évidemment, ce sont les enfants battus. Les enfants battus qui comprennent la violence de leurs parents comme un signe d'amour et qui deviennent ensuite des parents eux-mêmes et à ce moment-là deviennent incapables de montrer leur amour à leur enfant autrement qu'en les battant. Et donc, ce n'est pas les parents qui battent leurs enfants, ce n'est pas par manque d'amour, c'est par un amour mal positionné, en quelque sorte. À la limite, ces parents aimeraient moins leurs enfants, ils leur ficheraient la paix, et les enfants s'en porteraient beaucoup mieux. Et donc, tout ça pour dire que l'amour humain est parfois bon et parfois pas forcément bon, et en tout cas, c'est pas parce que l'on aime que tout va bien. Et je pourrais même peut-être dire la même chose de l'amour de Dieu. Parce que nous prêchons aussi que Dieu nous aime. Mais est-ce que, à force de dire « Dieu vous aime, Dieu vous aime, Dieu vous aime », n'y a-t-il pas également un danger ? Le danger, c'est justement que Dieu devienne une sorte de réalité pesante sur nous-mêmes. Parce que cet amour de Dieu peut être pesant. On en a vu les ravages dans le puritanisme anglo-saxon, où on disait aux gens « Dieu vous aime, Dieu vous sauve, Dieu vous pardonne ». Mais le problème, c'est que le chrétien sait très bien qu'il n'est pas aimable, qu'il est pécheur et qu'il est très imparfait. Et du coup, cette espèce d'amour de Dieu devient un cadeau empoisonné, devient une charge, devient quelque chose qu'on n'a pas le droit d'avoir et qui est un poids insurmontable, générant des sortes de névroses graves où on essaye d'en faire encore plus pour mériter cet amour qui nous est donné parce que bref, être aimé est parfois quelque chose d'exigeant et de pesant. Peut-on supporter d'être aimé quand on sait pertinemment qu'on n'est pas aimable ? Et c'est vrai que le fait d'être aimé nous impose quelque chose et nous rend redevables. Et plus même, le fait d'être aimé nous retire quelque chose d'extrêmement précieux qui est notre liberté. Et certains parents le savent d'ailleurs et l'utilisent d'une façon très perverse avec leur enfant. Quand ils disent à leur enfant « Si tu m'aimais, tu ne ferais pas cela ». Cela veut dire que cet amour que je te donne et que donc j'exige que tu me donnes en retour, eh bien, t'impose des devoirs. Si tu m'aimais, tu ferais ça. Si tu m'aimais, tu ne partirais pas. Si tu m'aimais, tu viendrais me voir. Si tu m'aimais, tu aurais des bonnes notes à l'école ou tu ne ferais pas telle ou telle chose. Et donc on voit cet amour qui impose des gestes, qui impose des devoirs. Et parfois, il y a un danger dans la prédication de l'amour de Dieu quand justement on profite de cette prédication de l'amour de Dieu pour dire aux chrétiens, vous voyez, hein, Dieu vous aime, eh bien ça vous impose des devoirs infinis à son égard pour essayer de répondre à cet amour. Et si Dieu vous aime et que vous ne l'aimez pas, vous êtes des ingrats. Et si Dieu vous aime et que vous êtes incapable de tout faire pour mériter cet amour, vous êtes des profiteurs de l'amour de Dieu, vous êtes des voleurs, des escrocs. C'est souvent ça la prédication chrétienne. Et vous voyez à quel point cette prédication peut faire des ravages, et à quel point, je pense, elle peut même s'éloigner du message de l'Évangile, qui est un message de libération, qui est un message de tranquillité, un message de pardon, un message qui nous permet de pouvoir être nous-mêmes, en quelque sorte. Oui, c'est vrai, cet amour qui impose tant de choses peut faire retomber dans la théologie des œuvres. Cette prédication de l'amour peut faire retomber dans l'idée du devoir, voire pire, dans celle de la culpabilité. Culpabilité de ne pas savoir aimer assez, et ça c'est vrai vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de ceux qui nous aiment dans ce monde. Culpabilité de ne pas savoir le dire comme il faudrait. Culpabilité de ne pas agir avec assez d'attention à l'autre. Et bref, vous voyez tout le poids qu'il y a là-dedans. Et je me dis finalement, eh bien voilà, Jésus a eu bien raison de mettre ça un petit peu à l'écart de Dieu. Et ceux qui sont appelés fils de Dieu, ce ne sont pas ceux qui aiment, ce sont ceux qui procurent la paix. Et peut-être, tenez, voilà, une valeur encore plus importante, et qu'on prêche pas assez, la paix. Peut-être, voilà ce que Dieu donne, la paix. Et celui qui, dans ce monde, est le Fils de Dieu, ce n'est pas celui qui aime et qui envoie ses lacets pour enfermer les gens dans ses bras tentaculaires, mais celui qui est Fils de Dieu dans ce monde, c'est celui qui donne la paix. Ça, on en a besoin. La paix intérieure, bien sûr. La paix intérieure, c'est d'être en paix avec soi-même, parce que justement, on ne se sent pas coupable. La paix intérieure, c'est ce que nous donne ce pardon qui est reçu comme une grâce et non pas comme un devoir qui nous serait encore imposé. La paix intérieure, parce qu'on arrive à accepter d'être ce que l'on est, à avoir des désirs qui sont harmonisés, parce que l'on s'assume comme on est, parce qu'on n'a pas de désirs exaltés, irréalisables, qui nous feraient souffrir, parce que l'on apprend à être heureux de ce que l'on a. Ça, c'est la paix. Et j'espère bien que la foi nous donne cette paix qui nous permet d'être bien là où l'on est et où l'on peut dire « L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien ». Et puis cette paix, c'est aussi la paix avec Dieu. La paix avec Dieu, c'est qu'il n'y a pas d'obstacle entre Dieu et nous-mêmes. Le péché est dissous. Pas d'ombre, pas de punition, pas de jugement, mais juste une relation de proximité, une relation de transparence. La paix avec Dieu, donc on n'est pas en compétition avec Dieu. La paix suppose aussi l'absence de jugement. Et la paix, c'est d'être simplement bien, tranquille avec Dieu. Un Dieu qui nous aime sûrement, mais en même temps un Dieu qui, je dirais, nous aime en nous fichant la paix. Et ça, c'est précieux. La paix avec Dieu, c'est la juste relation de proximité avec lui, dans laquelle il n'y a aucun autre enjeu que simplement le fait d'être bien avec lui. La paix, c'est qu'il n'y a rien qui fasse obstacle entre lui et nous, et d'arriver peut-être idéalement à être dans une relation de totale transparence avec lui. Et puis la paix, c'est aussi la paix avec l'autre, la paix avec mon prochain, la paix qui est d'accepter l'autre, de prendre l'autre non pas comme un rival, mais de prendre l'autre comme un partenaire, l'autre comme un vis-à-vis, l'autre comme quelqu'un avec qui je peux parler, avec qui je peux partager un repas, l'autre qui est libre et l'autre qui me laisse libre, l'autre que je ne cherche pas à dominer et l'autre que je ne veux pas dominer, pas plus que lui ne voudrait me dominer. C'est ça la paix. La paix, c'est la relation juste avec l'autre que je ne possède pas et qui ne me possède pas. Et peut-être justement, est-ce cela la vraie porte d'entrée à cet amour évangélique que je présentais au début comme quelque chose d'un peu mystérieux et peut-être de si différent de cet amour humain qui parfois nous empêche de vivre. C'est que le vrai amour, il est peut-être là, justement, dans la paix. C'est cet amour qui construit, un amour qui respecte l'autre, un amour qui est libre et qui laisse libre, et qui n'est pas cette espèce d'amour engluant qui emprisonne. La paix, les uns avec les autres, c'est ça, je crois, la vraie forme d'amour. Et ce n'est pas, en tout cas, cet amour trop humain qui peut devenir pathologique et qui peut si vite se transformer en haine. Et je trouve cet amour, par exemple, dans l'histoire du fils prodigue, encore si connu. Ce père est incroyable et est l'image, je crois, justement, de ce Dieu qui sait donner un amour en même temps que la paix. Parce que le père prodigue, comme on dit, il donne à son fils. Il ne retient pas son fils qui veut partir. Il ne lui impose aucun devoir. Il ne lui dit pas « je te donne ça, mais fais-en bon usage ». Il donne. Et quand le fils revient, il ne lui fait aucun reproche. Il ne lui exige rien. Mais il est tout dans la joie de la présence qui est prise comme une grâce, sans rien attendre. Ça, c'est de l'amour. Ça, c'est de l'amour. Le contraire de la paix, c'est la jalousie, l'acrimonie, la querelle, la revendication, la critique. Et on sait à quel point, dans la vie humaine, cela peut être usant, insupportable, destructeur, plus que le fait de ne pas être aimé. Mais cette paix, justement, à laquelle nous aspirons, c'est ce qu'il y a de plus précieux dans ce monde, même pour vivre. Et peut-être que ce que nous pouvons faire de mieux dans ce monde, c'est de donner autour de nous de la paix. Et la paix, ce n'est pas l'ignorance ou l'indifférence, ce n'est pas le désintéressement, mais c'est que nous puissions devenir comme Dieu qui, lui, sait donner la paix, cette paix profonde, constructive. Et les gens qui donnent la paix, les gens pacifiques, sont des gens infiniment précieux, constructifs. Et c'est d'ailleurs ce que Jésus ressuscité donnera à ses disciples. Là aussi, c'est étonnant, ça m'a frappé, ça. Quand Jésus apparaît à ses disciples après sa résurrection, c'est pour leur dire quoi ? C'est pas pour leur dire « Mes enfants, je vous aime, aimez-moi ». Il leur dit une chose « Je vous donne la paix ». C'est son message le plus précieux. Et même quand il est sur la croix, il ne dit pas à ses disciples « Je vous aime, je vous ai tellement aimé, je meurs, mais je vous aime et je meurs entouré de votre amour ». Pas du tout. Il dit « Je remets entre tes mains mon esprit ». Et Jésus meurt en paix. Et ça, je l'ai expérimenté d'une façon assez étonnante. Évidemment, pastoralement, je suis amené parfois à accompagner des gens qui sont mourants. Et l'autre jour, j'étais justement avec quelqu'un qui était en train de mourir. J'y tenais la main et je me dis, il faut que je lui dise quelque chose de bien. Et je lui dis quoi ? Je lui dis, aimez-vous vos enfants ? Évidemment. Je lui dis, vous savez, on vous aime. Je lui dis simplement une chose, avez-vous la paix ? Il dit oui. Et je lui dis, je vous donne la paix. Est-ce que ce n'était pas plus précieux, plus essentiel à ce moment-là ? C'est cela, je crois, dont il avait besoin, cela qu'il lui fallait. Il était certainement plus important de dire cela parce que la paix, c'est le plus beau des cadeaux. Et puis la paix, surtout, ça, c'est concret. Je sais ce que c'est. L'amour, je ne sais pas toujours ce que c'est. La paix, je sais ce que c'est. Et c'est plus facile à voir, plus facile à comprendre. Mais en fait, cet amour que j'ai dénoncé, ce n'est pas, évidemment, l'amour de l'Évangile, ce n'est pas l'amour de Dieu. Ça, l'amour que j'ai dénoncé, c'est le mauvais côté d'un amour humain, trop humain, un amour plein de contradictions. Et bien sûr, finalement, j'ai eu tort de dire du mal de l'amour. Parce que l'amour de l'Évangile, c'est une manière de respecter l'autre, une manière de l'écouter, de lui permettre d'être lui-même, de ne jamais l'enfermer ou de le contraindre. Et donc l'amour évangélique, eh bien, c'est la paix. C'est un amour plein de paix. Et c'est peut-être ça le décodage de cet amour évangélique. C'est justement la paix. C'est un amour plein de paix, plein de liberté. Et d'ailleurs, les béatitudes, ne parle pas d'amour, elle parle de miséricorde. Et la miséricorde, je vous ai dit que c'était l'amour, mais le mot miséricorde vient du mot qui veut dire les entrailles. C'est donc l'amour affectif, justement, qui est bien, très bien, mais qui peut être dangereux. C'est l'amour des tripes. C'est précieux, mais ce n'est qu'une partie. Et cela ne peut devenir le vrai amour que si ça se concorde avec la liberté et avec la paix. Voici donc ce grand cadeau de ce Dieu qui est le Dieu de paix et de toute une grande tradition biblique qui dit que le centre même de la relation à Dieu, c'est Jérusalem. Et vous savez que Jérusalem, ça veut dire la fondation de la paix. Dans Jérusalem, il y a Shalom, la paix. Et donc, toutes ces traditions bibliques disent ce sur quoi il faut construire, c'est la paix. Et ce Dieu, ce qu'il nous donne, c'est la paix. Et il pourrait vous trouver des centaines et des centaines de versets, de citations qui nous disent cela, et sur lesquels on passe malheureusement trop souvent, parce qu'on prêche 99 fois sur l'amour et une seule fois sur la paix. C'est la première fois que je le fais depuis que je suis pasteur. Et nous avons effectivement cette bénédiction, cette promesse extraordinaire de Paul dans 2 Thessaloniciens 3, qui nous dit que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Amen.